qui a des orientations qui seraient données à sa politique. Nous avions plus de représentants une dernière fois, donc comment devons-nous l'analyser? Nous ne savons pas. Y a-t-il une désaffection d'un certain nombre de candidates ou de candidats pour les débats avec les citoyennes et les citoyens? Faire la verticalité. Bien, donc nous, notre objectif, ce n'est pas de balayer l'ensemble de l'actualité internationale ou nationale, mais d'aborder avec des représentants, de candidats, la question de l'éducation prioritaire. Pourquoi? Parce que à la fois la crise pandémique l'a bien montré, mais également toutes les études qui ont été conduites ces derniers temps l'ont aussi confirmé, la question des inégalités sociales, des inégalités scolaires, est une question non seulement persistante, mais qui s'aggrave et qui pose problème à la cohésion sociale dans notre pays. Or, aujourd'hui, d'une part, les raisons de cette aggravation des inégalités en termes de logement, en termes d'emploi, en termes de discrimination en fonction des cultures, etc., ne sont pas véritablement traitées. Il n'y a pas véritablement de politique à l'égard des cités ghettoisées ou des banlieues, de politique nationale conséquente. Mais du côté de l'éducation nationale, nous avons toujours un système éducatif qui est marqué par la sélection, une sélection qui reproduit largement la sélection sociale. Et que dans cette une représentation, la question de l'éducation prioritaire, depuis 40 ans, est marquée par une discontinuité du pilotage et en même temps des objectifs très différents. Nous avons organisé en tant qu'association, et nous sommes un peu les seuls sur le chantier de l'éducation prioritaire, le 27 novembre dernier, une journée nationale autour de 40 ans d'éducation prioritaire et après, qui a bien montré qu'il y avait une histoire de l'éducation prioritaire avec des objectifs bien fixés à l'origine qui marquaient bien que sur un territoire, et non pas par rapport à des individus, sur un territoire, la question de la justice sociale dans l'éducation passait par une amélioration de la qualité éducative, mais aussi une articulation du travail de l'école avec l'ensemble de tous ceux qui ont une responsabilité éducative sur le territoire. Les associations, les familles, les collectivités, les représentants de l'État, etc. Cette politique, qui est une politique de long terme, n'a jamais bénéficié du temps nécessaire pour sa réalisation, qu'il s'agisse de gouvernements de gauche ou de gouvernements de droite. À chaque fois, il y a des ruptures internes. Je ne vais pas revenir sur cette politique. Une rupture dans le pilotage, mais également une rupture dans l'objectif. Soit on a visé comme à l'origine des territoires, avec une volonté de justice, soit on a visé simplement des établissements scolaires, soit on a visé simplement des individus. Et c'est cette représentation idéologique qui est un peu en prime depuis Fillon 2005, Sarkozy, qui voulait d'ailleurs le dépôt de bilan de l'éducation prioritaire, et qui traverse quand même un certain nombre de représentations, notamment dans les médias. Quand on rencontre des médias, et ça m'arrive assez souvent pour l'éducation prioritaire, les grands médias, c'est ça coûte cher, il y a peu de beaucoup de résultats, puis à quoi bon, quoi, c'est pas porteur. Ça coûte cher, le surcoût est bien inférieur à, si on pouvait totaliser l'argent consacré aux options au lycée, aux classes préparatoires, par exemple, qui concerne un nombre beaucoup plus restreint d'origine sociale différente d'élèves, on aurait quand même un objet d'étude intéressant. Pour quel résultat, même les plus hostiles à l'éducation prioritaire reconnaissent que par le travail qui a été engagé, les écarts ne se sont pas aggravés. Alors, c'est pas suffisant pour nous, c'est qu'il faut qu'il soit réduit. Pour qu'il soit réduit, il faut qu'il y ait une continuité de la politique. Nous avons partagé nombre d'objectifs de la refondation de l'éducation prioritaire en 2014. De l'effort qui a été fait, qui devait être conduit dans le temps, et notamment avec une évaluation en 2019 de l'ensemble des projets des réseaux et de la carte de l'éducation prioritaire. En avril 2018, nous avons rencontré le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Nous avons rappelé ses engagements. Ils ont reconnu qu'ils avaient été pris, mais qu'ils ne seraient pas honorés. Donc, on a assisté depuis 2017 à une rupture de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire que l'effort qui avait été engagé autour du référentiel des projets de réseau n'a pas été prolongé. Et qu'une nouvelle politique s'est mise en place, axée essentiellement sur le dédoublement des classes de CP, puis de CE1 et de grande section, hein, qui est présentée comme la vitrine sociale de la politique macronienne. Or, aujourd'hui, les études qui ont porté sur cette politique montrent que les résultats sont extrêmement mitigés. Et qu'il conviendrait de s'arrêter, de réfléchir ensemble, de l'évaluer, pour qu'il y ait un débat public sur tant de ressources pour aussi peu de résultats, alors que les équipes sur le terrain, les équipes de formation, avaient d'autres solutions en main pour faire face aux difficultés des élèves. C'est pourquoi, donc, aujourd'hui, nous allons nous tourner vers les représentants des candidats pour voir quelles sont, eux, leur analyse qu'ils font de cette politique de l'éducation prioritaire et de quelle façon leurs candidates ou leurs candidats comptent prendre en compte ce dossier. Bon, on va commencer par Gaël Prigonce, qui est représentant de l'Hidalgo, et puis la place est laissée à la représentante de Yannick. Yannick Prigonce, bon, écoutez, vous avez au moins 20 minutes là pour vous. Hein. Oula, il y a plein de notes devant vous. Donc,
oui, c'est un vaste sujet.
C'est un vaste sujet, mais c'est bien qu'il soit traité.
Très beau sujet.
C'est une bonne entrée. Alors,
d'abord, je voudrais vous remercier de nous avoir sollicité pour à la fois présenter un certain nombre de propositions, mais aussi pour échanger avec vous sur le fond de ce sujet-là. Je suis très heureux d'être là. Je connais un certain nombre d'entre vous ici, et pour tout vous dire, je suis avec un grand intérêt les travaux que vous menez sur cette question de l'éducation prioritaire. En deux mots, je viens d'un département qui est celui de la Seine-Saint-Denis, où j'ai enseigné pendant 25 ans en éducation prioritaire. J'ai été instituteur, puis professeur des écoles. J'ai été directeur d'école maternelle, puis directeur d'école élémentaire. Ensuite, j'ai fait un passage dans l'inspection de l'éducation nationale. J'étais inspecteur en Oise. Et puis ensuite, je suis passé en collectivité territoriale, dans une mairie où j'ai été DGA sur les questions d'éducation, notamment de petite enfance, d'insertion. Et je suis aujourd'hui directeur de cabinet adjoint du maire de Saint-Ouen-sur-Seine, donc pas très loin d'ici. Et dans ma vie de militant, je suis donc aujourd'hui le secrétaire national du Parti Socialiste sur les questions d'éducation. Depuis maintenant un certain temps, j'ai participé, j'ai eu le plaisir, l'honneur et l'avantage de travailler en 2012 avec Jean-Paul Delahaye, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent bien ici, et avec Bruno Julliard et Vincent Payon pour préparer ce qui fut le programme de François Hollande sur les questions d'éducation en 2012. Et aujourd'hui, je suis donc dans l'équipe de campagne de Anne Hidalgo, avec le maire de Villeurbanne, avec Cédric. Et je suis, en tant qu'élu, je suis conseiller municipal d'une ville de Seine-Saint-Denis, en l'occurrence Neuilly-sur-Marne. Et je suis conseiller régional d'Île-de-France, commissaire lycée, donc sur mon groupe à la région, je suis les questions éducatives et notamment, bien évidemment, par rapport aux compétences régionales, la question des lycées. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense que pour aborder cette question-là de l'éducation prioritaire, je souhaite rapidement poser quelques enjeux et quelques défis qui vont au-delà de la seule éducation prioritaire, mais qui dessine déjà un peu le paysage et dans lequel nous nous inscrivons, donc avec Anne Hidalgo, que je représente aujourd'hui. Quelques enjeux et quelques défis que nous avons identifiés sur cette question éducative. D'ailleurs, on a un regret, je peux le dire, c'est très très compliqué. Très compliqué, qui plus est dans le contexte aujourd'hui international, évidemment, Mais d'une manière générale, les questions éducatives sont très compliquées à faire émerger dans les campagnes présidentielles. Ça n'est pas le sujet qui est forcément le plus facile à faire émerger. Et pourtant, nous considérons que le projet que nous portons pour l'école, c'est un projet de société. En fait. L'approche qu'on a de la question éducative, c'est le projet de société. Donc on a identifié quelques enjeux. Nous pensons d'abord qu'il faut penser PENSER, si je puis dire, l'école sur un temps long. Vous l'avez d'ailleurs évoqué, Marc, tout à l'heure, sur la question de l'éducation prioritaire, mais nous pensons que c'est valable aussi pour la question éducative au sens large du terme. Il faut penser l'école sur le temps long, mais il faut aussi aujourd'hui penser PANSER. Il faut penser le service public d'éducation et il faut le penser sur un temps très court parce que après un quinquennat Macron-Blanquer, qui pour nous est un quinquennat d'hyper-fragilisation du système éducatif, à la fois en termes de moyens, à la fois en termes d'hyper-management et de caporalisation des personnels, c'est notre analyse, d'hyper-classement et de sélection des élèves, et également de suppression de tout dialogue social éducatif avec les enseignants comme avec les familles. Donc c'est pour nous un premier enjeu. Nous considérons également qu'il faut comprendre et agir sur l'influence des inégalités sociales. Vous en avez parlé tout à l'heure. Comment aujourd'hui on peut considérer que tous les enfants ont les mêmes chances de réussir quand on a des problèmes d'audition, des problèmes de vue, des problèmes de dentition qui impactent sur les apprentissages. Et quand on sait que notre système éducatif, malheureusement, est tristement célèbre encore aujourd'hui, puisque c'est le système, et c'est pas à vous que je vais l'apprendre, dans lequel finalement le milieu duquel on vient joue sur les apprentissages et sur la réussite. Et il y a un déterminisme social qui est très fort, et il y a une reproduction également des inégalités qui est, voire une aggravation des inégalités qui est extrêmement forte. Saisir les tensions internes également de l'institution de l'éducation nationale qui considère, selon nous, encore trop souvent que les inégalités méritocratiques, si je puis dire, peuvent être à la fois justes et en même temps justifiées. Ce qui pose un vrai problème de fond sur la conception que l'on peut avoir de l'école de la République. Également la lutte contre tous les phénomènes de désaffiliation, de désaffection, de défiance par rapport à l'école de la République. C'est aussi pour nous un des grands enjeux. Résoudre aussi un certain nombre de malentendus, voire de différends, qu'il peut parfois y avoir entre l'école et les familles. Et puis d'un point de vue peut-être plus pédagogique, si je puis dire, mais on s'intéresse aussi, vous vous en doutez bien, à ces questions-là, c'est l'amélioration de la prise en charge pédagogique de la diversité scolaire par la formation initiale et par la formation continue. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et puis, rapidement, un autre enjeu, c'est le respect du temps de l'école, qui est un temps long et qui n'est pas le temps du politique. Savoir que les équipes éducatives et les élèves ont besoin de temps pour s'approprier les réformes. Et qu'à chaque fois qu'il y a un ministre, et je le dis autant d'ailleurs pour les ministres que j'ai soutenus lorsqu'ils ont été en responsabilité, hein, je ne fais pas de... Voilà, je le dis d'une manière générale, un ministre de l'Éducation nationale, quel qu'il soit, il n'a qu'une obsession quand il arrive, c'est de laisser son nom inscrit à une réforme. Le souci, c'est que on sait très bien que les effets de réforme, ça s'évalue sur un temps long, et qu'aujourd'hui, nous considérons que l'école, elle a besoin de respirer. Elle a besoin de respirer, et les enseignants, les équipes éducatives, les élèves ont besoin de s'approprier les réformes. Nous regrettons, par exemple, que le ministre Blanquer, je ne vais pas aujourd'hui faire la critique systématique, mais enfin, j'ai quasiment rien à dire de positif sur ces 5 années, donc je ne vais pas non plus... m'auto-censurer, mais la suppression pour nous du dispositif plus de maîtres que de classes, est quelque chose de totalement négatif. D'abord parce que il a répondu à une volonté de Jean-Michel Blanquer de faire disparaître tout ce qui a existé avant lui. Alors même que ce dispositif était plébiscité par les équipes pédagogiques, et que je crois savoir qu'il y a même un rapport qui a été fait, mais qui n'a pas été rendu public, et qui indiquait que pour le coup, c'était un dispositif qui, en termes de réussite des élèves, était un dispositif à la fois intéressant pour les élèves, mais en plus, d'un point de vue des enseignants, était tout à fait intéressant sur le plan pédagogique et sur le plan des pratiques professionnelles. Et donc cette question de la respiration et du temps donné à l'école, au sens large du terme, est pour nous une donnée tout à fait importante. J'ai brossé quelques enjeux qui me permettent d'en arriver spécifiquement à la question de l'éducation prioritaire. L'histoire, en fait, des politiques d'éducation prioritaire, et je le dis à dessein, je le dis au pluriel, et Marc, vous venez aussi d'en parler, l'origine, et lorsque Alain Savary a mis en place donc ces zones d'éducation prioritaire, hein, ça nous ramène, moi j'étais jeune encore, c'est la première année où j'avais voté, c'était 1981, donc ça commence un peu à dater. C'était pour compenser les inégalités sociales et pour compenser les inégalités scolaires. C'était un peu après, d'ailleurs, la création du collège unique. Et donc, l'idée, c'était de continuer une forme de démocratisation de l'école en agissant là où elle faisait encore défaut. Donc, il s'agissait de compenser les inégalités sociales et scolaires en apportant notamment des moyens supplémentaires aux quartiers qui étaient relégués. Et donc, il y avait cette volonté politique d'une différenciation des moyens. À l'époque, c'était d'ailleurs, mais vous vous en souvenez au moins aussi bien que moi, c'est un peu une rupture du dogme. Il est égalitaire à l'époque, qui existait d'une manière générale et qui ne faisait pas l'unanimité. Moi, je me souviens, j'étais un jeune militant à l'époque, dans un certain nombre de communes, notamment certaines communes de gauche, il y avait des collectivités qui ne souhaitaient pas que ce type de dispositif se mette en place. Hein. Ça ne s'est pas fait, malgré tout, comme ça, dans une volonté, on va dire, collective et unanime. Alors, c'est vrai que le résultat ne fut pas forcément à la hauteur, pour au moins trois raisons. Rapidement, la faiblesse des moyens supplémentaires attribués, bon, certains endroits. Deux, la question des critères des cartes décidées localement. Moi, je me souviens, et là, encore une fois, vous allez voir que je suis... Mais enfin, il y a eu des zones d'éducation prioritaires dans la Nièvre, je prends ce département au hasard, vous vous en doutez bien, dont on se demande un peu pourquoi le fléchage a été fait. Et donc, c'est une deuxième raison, à notre sens, quand on réfléchit à ce qui s'est passé pour en tirer des enseignements aujourd'hui, pour un, ne pas refaire les mêmes erreurs, et deux, surtout pour progresser, c'est peut-être un deuxième élément. Et puis, troisième élément, selon nous, dans l'analyse de ce qui s'est passé, c'est le manque d'accompagnement de la mise en œuvre donc de ce dispositif, c'est pour nous un élément important. Et puis après, il y a eu, je vais rapidement, à partir des années 90, la politique d'éducation prioritaire, elle s'est couplée à la politique de la ville. Ça a été la deuxième phase, dans une lutte contre l'exclusion et ses conséquences, le décrochage, les violences urbaines, etc. Plus que contre les inégalités scolaires. Et ça, ça a été deuxième changement, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la carte de l'éducation prioritaire, les REP+, dans une logique de territoire. Troisième étape rapidement sur laquelle on a réfléchi pour également regarder ce que l'on peut, ce que l'on pourrait faire, ce que l'on devrait faire selon nous aujourd'hui. À partir des années 2000, la politique d'éducation prioritaire, elle s'est d'une certaine manière diluée dans une forme de logique méritocratique, pardon, dans laquelle l'école, finalement, était là pour maximiser les capacités d'apprentissage initial des élèves, plus que pour les dépasser. C'est une forme de logique méritocratique dont la caricature revient sans doute, je vous dis aussi cash, à la droite, sous la présidence Sarkozy, qui avait d'ailleurs de mémoire annoncé son intention de déposer le bilan des ZEB, je reprends une expression qu'il avait utilisée donc à l'époque, avec cette logique d'exfiltration pour les élèves de l'éducation prioritaire considérés comme entre guillemets méritants. C'est-à-dire qu'en fait, on sort entre guillemets les bons élèves, et puis les autres, vous restez et vous vous débrouillez comme vous le pouvez là où vous habitez. Ça a été la troisième étape. Je voudrais quand même préciser peut-être une petite parenthèse et une nuance, un peu évidemment, peut-être considérer que je manque un peu d'objectivité, mais quand même, et vous en avez parlé tout à l'heure, Marc, il y a quand même eu une parenthèse dans cette histoire avec la loi de refondation de l'école, avec une philosophie qui était, et je sais que certains ici y ont beaucoup travaillé, qui était beaucoup plus proche de celle des débuts, puisque l'idée était de renouer avec justement cet enjeu de lutte contre les inégalités sociales en matière de scolarité. Et donc, on en revenait plus à une logique de compensation, mais qui avait été revisitée, avec notamment, nous souhaitons vraiment, évidemment, j'en reparlerai après, l'analyser avec l'ensemble des acteurs de l'école, retravailler dessus, mais nous considérons qu'il y avait eu vraiment une impulsion très très forte avec un important travail d'outillage et de formation des personnels en éducation prioritaire grâce à la construction d'un original référentiel de l'éducation prioritaire. Et nous considérons cet outil comme un outil absolument central dans la question de l'éducation prioritaire. Il y avait eu un travail ministériel qui avait impulsé un travail de concertation avec les acteurs professionnels, avec les chercheurs, y compris d'ailleurs en sciences sociales de l'éducation, avec les corps d'inspection. Et donc, nous pensons que ce travail-là doit être non seulement préservé, doit être revu, revisité, adapté, mais selon nous, c'est un élément indispensable dans la lutte contre les inégalités et dans cette politique d'éducation prioritaire. Alors, là aussi, Marc, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est important de rappeler que, certes, les objectifs n'ont peut-être, sans doute, pas été atteints autant qu'on souhaiterait. Pour autant, s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là, sans doute que les choses, aujourd'hui, seraient bien plus graves quand on considère l'entourage et le milieu dans lequel finalement nos enfants sont accueillis dans les écoles, parce qu'il y a une augmentation de la pauvreté, il y a eu une augmentation et une aggravation des inégalités sociales autour de l'école sur tout un tas d'aspects. Et donc nous considérons que ce n'est pas la philosophie de l'éducation prioritaire qui est en cause, ou sa mise en œuvre. Et d'ailleurs, on pourrait poser la question, je le disais tout à l'heure, est-ce qu'on a vraiment donné les moyens financiers et humains à l'éducation prioritaire pour fonctionner? Nous considérons, nous, que la réponse est non. J'ai quelques exemples. L'accompagnement éducatif en éducation prioritaire aujourd'hui, de la part de l'État, c'est un investissement de 18,80 euros par élève. L'accompagnement dans les classes préparatoires, ça a été, je crois que vous avez tout à l'heure, Marc, c'est 45 fois plus. Donc là, il y a des choix politiques à faire à un moment donné. À un moment donné, politiquement, il faut le dire. Vincent Peillon avait essayé en son temps. Il a essayé, mais on a bien vu ce que ça donnait. Et donc à un moment donné, il faut aussi politiquement affronter ces sujets-là. La scolarisation des enfants de moins de 3 ans, nous considérons, nous, que c'est un formidable outil de lutte contre les inégalités. J'ai été directeur d'école moi-même 12 ans en école maternelle, en éducation prioritaire, dans le nord du département de la Seine-Saint-Denis. J'ai eu la chance à l'époque de pouvoir travailler cette question-là avec des classes qui accueillaient donc des enfants de moins de 3 ans. Quand on sait en termes d'inégalité, je regardais encore tout à l'heure qu'à l'âge de 4 ans, un enfant issu d'un milieu social défavorisé, il a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu de milieux favorisés. Si ça, en termes de lutte contre les inégalités, ça n'est pas un sujet, alors je pense qu'il n'y a pas de sujet en matière de lutte contre les inégalités. Je pourrais aussi parler des calculs qui ont été faits, c'est notamment Jean-Paul Delahaye, encore récemment d'ailleurs, sur la question des exonérations fiscales pour le soutien scolaire, les soutiens privés, hein, qui représentent quand même la bagatelle de 300 millions d'euros. C'est 10 fois ce qui est donc inscrit pour l'éducation prioritaire. Donc il y a des choix politiques à faire à un moment donné, si on veut que l'école de la République permette à chaque enfant, quel que soit l'endroit d'où il vit, quel que soit le milieu d'où il vient, d'accéder à ce à quoi finalement il a le droit. Donc la question des moyens, elle est évidemment importante tout à l'heure. La deuxième question, quand on regarde le bilan, c'est la question des pratiques professionnelles. Et force est de constater que très souvent, on a quand même laissé les acteurs de terrain bien seuls, sans formation réelle, et appuyés sur la recherche. Moi, je me souviens, dans mon département, il n'y a pas si longtemps que ça, sous Nicolas Sarkozy, les jeunes qui arrivaient, dont beaucoup arrivaient de province, en Seine-Saint-Denis, et qui étaient nommés dans mon département, ils arrivaient le vendredi soir, ou le vendredi, ils étaient reçus à la direction académique, on leur donnait un DVD sur des, entre guillemets, des séances dans les classes, on leur disait, vous regardez le DVD, et lundi matin, vous êtes en classe. C'est une réalité. Ça s'est passé dans nos écoles. Et donc la question des pratiques professionnelles et donc notamment la question de la formation, c'est pour nous un élément central. Et puis il y a aussi la question de, des problèmes de pilotage. Il y a certains recteurs qui sont très investis, il y a d'autres recteurs qui le sont moins, il y a des disparités aussi dans la gestion au niveau des réseaux, qui regroupe à chaque fois un collège et plusieurs écoles. Il y a des endroits où les gens se parlent, il y a des endroits où les gens ne se parlent pas. Et donc, sur la question du pilotage, nous pensons aussi que c'est un élément déterminant sur lequel il faut travailler. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné et qui sont à regarder aussi positivement. Parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je décris... un tableau absolument dramatique. J'évoquais le département où je suis, mais il s'y passe aussi des choses absolument extraordinaires d'un point de vue pédagogique, parce que la difficulté scolaire est telle et les inégalités scolaires sont telles que on a des équipes éducatives qui réalisent des prodiges, et je n'exagère pas, dans des conditions extrêmement difficiles, à la fois des conditions de pratique professionnelle, mais aussi des conditions d'environnement qui parfois, dans certains endroits, dans mon département, mais il y en a d'autres, hein, j'ai été moi, inspecteur dans l'Oise, il y a des départements où on le sait bien, voilà. Mais c'est important de le rappeler et de dire qu'il y a des choses qui sont positives et qui permettent justement cette lutte contre les inégalités et cette finalement, quelque part, cette démocratisation de la réussite scolaire. Encore faudrait-il qu'on s'entende sur le terme de réussite scolaire, parce que quand je discute avec des représentants d'autres candidats à l'élection présidentielle, c'est très intéressant l'utilisation lexicale, parce qu'on se rend compte que sous un même terme, on peut mettre des choses extrêmement différentes. La question de l'autonomie, par exemple, dont Valérie Pécresse, Emmanuel Macron ne cessent de se gargariser, nous ne mettons pas, nous, en ce qui nous concerne, avec Anne Hidalgo, la même chose sous le terme autonomie. On pourra peut-être en discuter tout à l'heure, mais quand j'entendais encore Emmanuel Macron dire, il y a deux jours, je crois, à Poissy, que les chefs d'établissement, les directrices et directeurs d'école pourraient recruter, comme bon leur semble, les enseignants, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire à Marseille, nous considérons, nous, que là, on a un véritable sujet, non pas que nous ne soyons pas pour l'évolution de l'école, mais nous considérons que si on ne veut pas aggraver les inégalités, si on ne veut pas mettre en concurrence les établissements, les enseignants et les élèves, il faut que l'école de la République elle garantisse encore aujourd'hui un certain nombre de principes et de valeurs. Donc je disais tout à l'heure que dans les éléments positifs, c'est que au moment où les conditions sociales, économiques, culturelles se sont dégradées par ailleurs, eh bien on a tenu dans un certain nombre d'endroits et on a permis justement, finalement, de faire qu'il n'y ait pas une situation pire que ce qu'elle l'aurait pu être s'il n'y avait pas eu ces dispositifs. C'est important de le rappeler. Et puis, dans les enquêtes de terrain, des choses aussi extrêmement positives. Vous en parlez d'ailleurs assez régulièrement dans vos publications. C'est cette question de la culture commune qui, dans certains endroits, a pu s'installer et a pu progresser malgré les revirements politiques. Malgré les revirements politiques. Pourquoi ? Parce que je pense que les enseignants, et nous partageons vraiment très très fortement, et là c'est évidemment un peu l'ex-enseignant qui parle aussi, mais politiquement, nous croyons à l'éducabilité de chaque enfant et de chaque jeune, et de chaque adulte. Et ça, ça nous différencie profondément, je le dis aussi. Il n'y a pas de représentants aujourd'hui, mais quand il y en a dans les débats, j'échange aussi avec eux sur ces questions-là. Ça nous différencie profondément. Nous croyons en l'éducabilité. Nous considérons que chaque jeune, chaque enfant, chaque adulte, à quelque moment que ce soit de son parcours, il peut progresser. Et ça, c'est, on va dire, pour nous, c'est une des pierres angulaires de la question de l'éducation au sens large du terme. Et c'est la pierre angulaire aussi de l'école de la République. Parce que si nous abandonnons ce principe-là, ça signifie que nous capitulons et que c'est la fin de l'école publique. C'est la fin de l'école publique. Et que c'est relié d'ailleurs à la question du curseur, du niveau d'exigence. Il nous apparaît aussi très important de garder ce niveau d'exigence élevé parce que tous les enfants, quel que soit l'endroit où ils vivent, encore une fois, le milieu d'où ils viennent, ils ont droit à ce qu'il y a de mieux et ils ont droit à ce qu'on ne renonce pas pour eux, justement, à progresser et à réussir. Dernière chose sur ce qui fonctionne bien aussi, c'est que là où les choses quand même fonctionnent bien, c'est le lieu, souvent, où les enseignants opèrent, comment je vais qualifier ça ? Oui, un équilibre assez savant, je trouve, nous trouvons, entre bienveillance et exigence. C'est quelque chose qui est extrêmement important et que, justement, les enseignants ne renoncent pas à ce niveau d'exigence et ils encouragent aussi quelque chose que nous portons aussi en termes de proposition, qui est de privilégier la coopération plutôt que la compétition. Nous avons besoin d'une école de la coopération et non pas d'une école de la compétition. Parce que les finalités ne sont absolument pas les mêmes et ne correspondent pas, finalement, et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, au type de société que nous voulons. Nous voulons une société et donc une école dans laquelle, pour que certains réussissent, il n'est pas nécessaire que d'autres échouent. Non. Chaque élève, là où il est, doit pouvoir trouver dans l'école ce dont il a besoin pour progresser. Donc cette question des inégalités sociales, vous l'avez compris, elle est au cœur de ce que nous portons, la question de la démocratisation de la réussite, la question de l'éducabilité, la question de la lutte contre également un certain nombre de déterminismes. Et donc, j'ai évoqué un certain nombre de choses, de propositions que j'ai rattachées à l'histoire de ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Je voudrais aussi, et puis après, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est surtout d'avoir un échange avec vous sur votre vision des choses. Nous proposons, et Anne Hidalgo propose, donc des assises nationales de l'éducation prioritaire permettront à la fois un bilan, une concertation, une réflexion sur les ressources, les dispositifs existants. Encore une fois, nous, on n'est pas... il n'y a pas longtemps, extrêmement prudente de ces dédoublements pour un certain nombre de raisons. On en reparlera sur la question justement des dédoublements. où moi j'ai une approche extrêmement prudente de ces dédoublements pour un certain nombre de raisons. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais en tout cas, dans ces assises de l'éducation prioritaire, nous souhaitons avoir un bilan sur ces dispositifs avec les principaux acteurs, avec les acteurs eux-mêmes, parce que nous sommes persuadés aujourd'hui que, et ça c'est aussi le vécu finalement, mais les seules réformes qui fonctionnent, je prends un exemple de mémoire, les réformes, les modifications, les changements qui ont bien fonctionné sont ceux qui ont été co-construits avec les acteurs. Et j'ai en mémoire en 2015 les programmes de l'école maternelle. Les programmes de l'école maternelle ont été bien accueillis par les enseignants. Mais pourquoi? Parce qu'ils y avaient participé. Et que donc, tout ce qui relève de l'injonction, et je ne reviens pas sur les petits guides orange d'il y a quelque temps du ministre Blanquer, bon, après, je fais aussi, si je puis dire, notre mea culpa. Autant, je fais une petite incise, vous me le permettrez, mais autant je considère encore aujourd'hui que la réforme des rythmes scolaires, je reste, moi, un militant convaincu, pour y avoir travaillé, d'ailleurs, en 2012, à l'époque, avec Vincent, dans la préparation de cette réforme des rythmes scolaires, donc je reste un militant invétéré, comme je reste un militant de la réforme du collège qui avait été initiée, mais ces deux réformes ont échoué. Ça nous interpelle politiquement sur la manière dont on les amène, sur la manière, certes, dont on les prépare. Pour autant, ça ne remet pas en cause leur caractère politique fondamental de la lutte contre les inégalités. Et moi, je suis encore aujourd'hui dans des débats où je continue à défendre ces deux réformes-là, parce que je considère que quand on veut lutter contre les inégalités, eh bien là, on avait politiquement, je dis bien politiquement, on avait deux outils qui permettaient, eh bien, de dire que oui, on engageait des dispositifs qui faisaient que, oui, nous considérons que, par exemple, une deuxième langue pour tout le monde dès la cinquième, oui, c'est un progrès démocratique, oui. Considérer que 5 matinées de classe et que des activités artistiques, culturelles et sportives gratuites pour des enfants qui n'ont pas la chance le mercredi, comme mes petits-enfants, d'aller au conservatoire ou d'aller au foot avec son papa ou sa maman, parce que la réalité c'est ça. Vous avez aujourd'hui, dans notre pays, moi je le vois, dans le quartier y compris où je vis, des enfants qui posent leur cartable le vendredi soir et jusqu'au lundi matin il ne se passe plus rien. Et le mercredi, ils sont chez eux. La réalité, aujourd'hui, c'est ça. On est un des derniers pays au monde à avoir un système éducatif avec 4 jours d'école par semaine. On est un des derniers au monde, mais ça n'a l'air de choquer personne. Alors après, il faut réfléchir à comment on a pu échouer. Là, je parle pour nous, hein, je fais un peu l'auto-analyse, si je puis dire. Mais après, il faut réfléchir. Comment ça a été amené, comment ça a été fait, etc. Les inégalités entre les communes, même si franchement, à l'époque, moi j'ai fait un peu le tour de France pour rencontrer les élus sur cette question-là, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y a quand même des municipalités qui ont fait le choix de construire des ronds-points plutôt que de mettre en place des activités pour les enfants. Hein. Donc après, on peut dire qu'on n'a pas l'argent, mais bon, les inégalités de fait entre les communes, elles existaient avant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Les inégalités, on va dire, financières, elles existaient déjà avant. Le rapport était même d'ailleurs de 1 à 10 avant la réforme des rythmes scolaires. Bref, tout ça pour vous dire que, et je vais m'en arrêter là, mais tout ça pour vous dire que je partais des assises nationales de l'éducation prioritaire et de la question donc, des réformes, voilà, ça y est, j'ai retrouvé le fil de mon propos. Donc, des assises nationales de l'éducation prioritaire pour faire le bilan, la concertation, la réflexion, voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, ben, j'étais parti des dédoublements. La restauration du pilotage à tous les niveaux. Nous pensons qu'il faut restaurer cette question du pilotage qui est un des éléments vraiment essentiels, essentiels pour la conduite des politiques publiques. La question également de la formation initiale et de la formation continue. La question de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans reste pour nous un sujet majeur aujourd'hui. vraiment. La question de l'attractivité du métier pour les enseignants, vous allez me dire que c'est évidemment une donnée nationale, c'est partout. L'attractivité du métier, il manque des enseignants partout. La question de la revalorisation, elle se pose évidemment partout. Donc on est bien d'accord. Mais nous pensons que sur les territoires d'éducation prioritaire, il y a des dispositifs à imaginer, à inventer, notamment en lien avec les collectivités. La question de la mixité sociale et de la mixité scolaire, parce qu'on peut parler de mixité sociale, vous avez parfois des établissements, et là il faut aussi qu'on mette un peu qu'on regarde un peu les choses en face, hein, mais vous avez des établissements, vous savez bien, dans lesquels on a de la mixité sociale, mais où il n'y a pas de mixité scolaire, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des établissements même s'organise un certain nombre de filières, entre guillemets, hein, qui font que vous perdez globalement la mixité sociale. Tout ça, et je vais m'arrêter là. Alors, nous considérons également que la question, par exemple, des remplacements sur les territoires d'éducation prioritaire, elle est partout, encore une fois, mais dans ces endroits-là, elle est fondamentale. Moi, dans mon département, sur le temps de la scolarité obligatoire, il a été calculé qu'il y a des élèves qui perdent quasiment une année de scolarité. C'est quand même aujourd'hui un véritable sujet. Tout ça pour dire que, et puis peut-être on aura l'occasion après, parce que sinon je vais être trop long, mais on a une approche donc, extrêmement critique des contrats locaux d'accompagnement. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire sur la chaîne du Public Sénat, en face, à l'époque, elle était encore là, à Madame Elimas, mais nous avons, nous, une approche extrêmement critique de ces contrats qui, pour nous, marquent la fin de la question de l'éducation prioritaire. On en rediscutera peut-être tout à l'heure. Je n'ai pas parlé non plus de la question enseignement public, enseignement privé, mais c'est lié quelque part avec la question de l'éducation prioritaire, parce que les expérimentations qui sont faites aujourd'hui, nous considérons que il est absolument pas normal qu'aujourd'hui des établissements privés bénéficient des financements publics de l'éducation prioritaire, parce qu'on ne peut pas demander de l'argent public quand on n'a pas les mêmes obligations que l'enseignement public. Moi, j'ai été directeur d'école pendant longtemps. Lorsque j'avais des élèves qui partaient dans l'enseignement privé et qu'ils revenaient au bout de 15 jours parce que ça se passait pas bien ou quoi, je les accueillais parce que c'est le travail de l'enseignement public. Et donc, on ne peut pas, moi, nous considérons que ce qui se passe là sur ces contrats locaux d'aménagement, c'est ni fait ni à faire. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Pourquoi j'évoquais cette question-là? Il y a aussi un fil conducteur qui rejoint, et je m'arrête là, au projet de société qu'on peut porter, que nous portons, c'est que nous pensons que si on ne scolarise pas les enfants ensemble, on se prépare une société, pour nous, extrêmement... une société de partition, finalement. La question du vivre ensemble, c'est à l'école que les choses aussi se passent. Si on organise, comment on peut adhérer au vivre ensemble si on n'organise pas le scolariser ensemble pendant la scolarité obligatoire? Comment on peut, à un moment donné, parler du vivre ensemble si on ne commence pas par scolariser ensemble les élèves? Et que cette question-là, pour nous, elle est fondamentale. C'est quelque part aussi la question de l'altérité. Nous considérons que l'altérité, elle est dans la construction de chaque enfant, de chaque jeune, elle est absolument déterminante pour son parcours et pour son devenir, d'adulte. J'ai pas tout abordé, mais j'ai livré comme ça un certain nombre d'éléments. Notre fil conducteur, c'est la question des inégalités. Et ça passe d'abord et avant tout par ce que, selon nous, hein, bien sûr, par ce que je viens d'évoquer, je n'espère pas trop longuement, mais en même temps, c'est un sujet qui mérite qu'on prenne le temps aussi de vous présenter, de vous dire un petit peu comment on voit les choses.
Merci Yannick Prigence. Alors, à profiter du fait que j'ai plus de temps que prévu pour le débat, pour vos questions, à la fois en direct et puis en distanciel avec notre responsable du distanciel. Bien, qui veut se lancer, qui a des questions, des réactions, des propositions, des contestations,
c'est le débat.
Au propos de Yannick Prigence. L'AEF, vous présentez à chaque fois.
Oui, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis Alice Durneau de l'AEF. Je vais vous donner une question par rapport il me semble que dans le programme d'Anne Hidalgo, il est question de lutter contre le collège ghetto, de mettre en place un plan de mixité, concernant spécifiquement les collèges, de savoir en quoi consisterait ce plan, dans quelle mesure est-ce qu'il prendrait en compte les acquis de la réforme du collège, enfin, en tout cas certains éléments de la réforme du collège qui a été.
On va peut-être prendre, pour que je ne monopolise pas, pardon, la parole.
Alors, d'autres questions qui nous viennent. Comment imaginez-vous la dotation de moyens pour éviter les effets de seuil que l'on constate aujourd'hui entre l'éducation prioritaire et les autres établissements?
Voilà. Excusez-moi, vous pouvez répéter.
Comment imaginez-vous la dotation de moyens pour éviter les effets de seuil que l'on constate aujourd'hui entre l'éducation prioritaire et les autres établissements? Une deuxième question, pensez-vous que le dispositif de classe dédoublée puisse favoriser la mixité sociale dans les établissements?
On s'arrête là, Alexis, là, pour l'instant, puis on prend la question de Nelly, et ça fera déjà un premier.
Nelly Rizot, secrétaire nationale du SNUPP. Vous avez parlé tout à l'heure du référentiel de l'éducation prioritaire qui était central et qu'il faudrait le revisiter et le réadapter. Et j'aimerais savoir un petit peu comment vous voudriez le revisiter et comment le réadapter. Parce que c'était quand même un référentiel pour lequel on trouvait beaucoup de choses positives dedans. Donc j'aimerais savoir un petit peu plus dans le détail ce qu'il en est.
Alors vous avez quatre questions. Vous allez y répondre dans tout et vous allez y répondre.
Oui, je vais y répondre. Alors, bien sûr, je vais y répondre. Peut-être que je commence par le référentiel. Quand je disais le revisiter, c'est-à-dire que, d'abord, nous considérons, nous, que c'est, j'ai envie de dire, l'outil avec un O majuscule, si je puis dire. Nous considérons vraiment que c'est un outil majeur. Et quand je parlais notamment des assises de l'éducation nationale que nous allons mettre en place, il y aura dans ces assises, justement, un travail mené là-dessus, mais je ne vais pas vous dire aujourd'hui comment, ce que l'on modifiera, ce que l'on ne modifiera pas, parce que sinon je serai en contradiction avec ce que je disais dans mon propos et qui soulignait le fait que c'est avec les acteurs de l'éducation que nous mènerons ce travail-là, parce que nous considérons aujourd'hui que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on veut que les équipes éducatives se sentent, on va dire, reconnues aussi, d'une certaine manière, et partie prenante, il faut les impliquer et il faut les écouter. Et donc, c'est un travail qui sera mené avec les principaux acteurs. Donc je vais pas là maintenant, si vous voulez, aller plus loin que ça, mais en tout cas nous considérons qu'il y a peut-être des choses, je dis peut-être des choses à changer, à modifier, je ne sais pas, mais en tout état de cause nous voulons que ce référentiel soit, comme je le disais tout à l'heure, vraiment au cœur du sujet d'éducation prioritaire.
Je vous arrête sur ce point parce qu'il faut aller un peu plus loin. Sur le référentiel, c'était qu'un outil.
Oui.
C'est un outil pour construire des projets de réseau. Et donc, ce que nous, à l'OGT, on revendiquait, ce qui était prévu, c'est qu'en 2019, il y ait une évaluation avec les intéressés, une évaluation nationale des projets de réseau. Pas un inventaire du référentiel qui, après tout, pourquoi pas, mais on ne fait pas dans le fétichisme. Et donc, l'essentiel, c'est le projet de réseau. Or, sur quoi ? But, projet de réseau. À la fois des questions, vous l'avez apporté, des questions de pilotage, de formation des pilotes, de choix des pilotes, d'ailleurs en éducation prioritaire, et d'organisation, des pilotes qui, dans le même réseau, disparaissent la même année. Mais il y a également une question de rapprochement des cultures professionnelles entre le premier et le second degré. Il faut aborder les questions. Nous avons fait un travail d'enquête qui était fortement relayé d'ailleurs par le SNUPP sur les effets de la refondation et c'est apparu. C'est-à-dire qu'il y a des cultures professionnelles qui sont différentes, que dans les processus de formation initiale, on prend peu en compte l'exercice professionnel en éducation prioritaire et que la difficulté, c'est de rapprocher ces cultures pour bâtir de la continuité de la cohérence pédagogique et éducative. Ça ne veut pas dire que ça ne réussit pas. Ça réussit à bas bruit, à condition qu'il y ait une volonté politique forte pour le faire réussir, contre les lobbies disciplinaires. Alors là, c'est là vous êtes directement, parce que vous ferez des ennemis. Il faudra choisir. Des choses très précises. Il faut développer des collectifs professionnels. On les appelle comme ça, des collectifs professionnels. De l'entrée à l'école maternelle à la fin de la scolarité obligatoire, qui permettent cette continuité. On ne rentre pas par les statuts, on rentre par la pédagogie, par la démarche éducative. Donc ça, ce n'est pas le référentiel qui nous intéresse en tant que tel, c'est l'effet du référentiel sur les projets. Les moyens supplémentaires sont donnés, non pas pour la souffrance professionnelle, mais pour construire des projets pour la réussite. Voilà.
Tout à fait, c'est un
assez précis. Excusez-moi, juste une petite précision.
Tu te présentes, s'il te plaît, au même temps.
Daniel Grossin, retraité, directeur adjoint de l'éducation au conseil départemental du Val-de-Marne. J'ai aussi travaillé dans une ville. Dans vos propos, vous dites les acteurs de l'éducation, mais qui sont les acteurs de l'éducation, pour être plus précis?
Je note et puis je vais.
Bref. Hein.
Sur les acteurs de l'éducation, on a bien évidemment les équipes éducatives, les équipes pédagogiques, donc les enseignants, les chefs d'établissement, les directrices et directeurs d'école pour le premier degré. On a aussi dans un certain nombre de situations, alors on a aussi on a un certain nombre de personnels territoriaux aussi. Qui joue un rôle parfois non négligeable, je pense par exemple dans les écoles, évidemment dans les écoles maternelles, où la présence des ATSEM est quelque chose évidemment de très important. Et puis on a aussi, sur un certain nombre de projets, des acteurs de l'éducation, pour revenir à ce que vous disiez, notamment sur l'éducation populaire, qui jouent aussi dans un certain nombre de lieux un rôle particulièrement important. Je pense que j'ai fait à peu près. Et les collectivités, alors les élus évidemment, mais bon, on voit d'ailleurs aujourd'hui sur la question des cités éducatives. Vous aviez sur le fait d'insister, parce que je n'avais pas parlé, mais sur la continuité, enfin le continuum même d'ailleurs, pédagogique est quelque chose d'extrêmement important. Vous avez d'ailleurs, je crois, parlé de culture même. Professionnel, et je me souviens pour l'avoir vécu à l'époque sur un REP où on se rendait compte en termes de pratique professionnelle que, par exemple, j'évoquais tout à l'heure l'autonomie, mais on ne mettait pas forcément sous le terme autonomie en collège la même chose que finalement ce que l'on attendait d'un élève par exemple en CM1 ou en CM2. Et donc c'est vrai qu'il y a tout un travail à mener, qui est extrêmement complexe, parce que là encore, pour l'avoir vécu, c'est aussi arriver à réunir les conditions qui font que les équipes peuvent se rencontrer, peuvent travailler, peuvent avoir du temps, peuvent échanger. Donc c'est aussi important de le préciser. Sur les dédoublements, la question sur les classes dédoublées, en termes de mixité. Je vois pas bien le lien. Je vois pas bien le lien entre la problématique du dédoublement et la problématique de la mixité.
La question qui était, c'est sur la dotation de moyens. pour éviter, comment imaginez-vous la dotation de moyens pour éviter les effets de seuil, ce que l'on constate aujourd'hui entre l'éducation prioritaire et les autres établissements?
Alors ça, c'est une question... C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est effectivement l'effet de seuil, il est créé par, en fait, la labellisation. Alors après, on a toujours l'effet de seuil, de toute façon, il existera toujours, c'est le principe. Voilà. Après, on peut être d'accord ou pas, mais un effet de seuil existe, ça existe partout. Et donc, quoi qu'on fasse, que l'on bouge le curseur ou pas, de toute façon, il va toujours exister. Après, d'une manière générale, la chose à laquelle il faut, à mon avis, quand même veiller, c'est, et alors quand je dis ça, j'ai bien conscience que du coup, c'est presque, quand je disais tout à l'heure qu'il y avait eu un saupoudrage et qu'il y avait eu une absence de moyens forts dans les endroits qui en avaient besoin, là, on rejoint pour le coup vraiment les questions budgétaires. C'est-à-dire que sur les questions d'effet de seuil, on rejoint les questions budgétaires.
Alors, donc, justement, sur cette question budgétaire, on a une question du chapitre pédagogique. Vous évoquez des mesures qui nécessitent des moyens importants. Avez-vous quantifié le budget qui sera alloué à l'éducation prioritaire?
La réponse à M. Jarreau, c'est non. Si c'est M. Jarreau qui l'a posé, c'est une blague. Ah, c'est du café, donc c'est peut-être un...
C'est une collaboratrice.
Ouais, d'accord.
Voilà. Donc là, pour l'instant, vous ne l'avez pas quantifié.
Non, on s'est beaucoup penché sur la question des salaires. Ça ne vous aura pas échappé.
Deuxième question, et ça revient sur cette question des effets de seuil sur la labellisation. Quelle est votre vision de la carte actuelle de l'éducation prioritaire? Sur quels éléments devrait-elle être reconstruite selon vous?
C'est un sujet. Là encore, je ne veux pas du tout esquiver du tout la question. Hein. Nous, ce que nous pensons, c'est que ce qui est en train de se passer, par exemple, je peux donner un exemple, le déplacement de la question de l'éducation prioritaire sur la question du milieu rural, pour nous, est un véritable... c'est un non-sens, mais c'est surtout, c'est surtout une erreur de déplacer... de dire que, du coup, on va mettre de l'éducation prioritaire en milieu rural parce qu'on sait qu'on a 70% globalement des élèves qui sont en grande difficulté, mais qui ne sont pas dans les territoires, dans les dispositifs d'éducation prioritaire aujourd'hui. Pour nous, c'est un changement profond d'approche de la question de l'éducation prioritaire.
Monsieur Trigors, à nos LP, nous-mêmes, nous sommes posés il y a quelques années la question du champ de l'éducation prioritaire, et notamment de savoir est-ce qu'il est bien raisonnable de maintenir près de 20% des collégiens en éducation prioritaire, est-ce qu'il ne faut pas se concentrer, et de quelle manière, sur effectivement les plus le cœur de cible. Voilà. On se pose toujours la question.
Oui, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, on n'a pas trouvé, mieux, c'est une expression, mais nous pensons qu'il faut effectivement se concentrer dans les endroits qu'on connaît, et qu'il faut massivement, parce que c'est une des raisons qui très certainement ont fait que les résultats espérés, il y a d'autres raisons, mais j'en ai évoqué un certain nombre, mais du coup nous pensons que c'est un élément effectivement déterminant, et que à un moment donné, il faut mettre, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, mais le paquet là, parce que sinon on va continuer dans cette forme de saupoudrage qui finalement nous amène à la situation d'aujourd'hui. Sauf que, il y a quand même un sujet d'autant plus inquiétant aujourd'hui, pour aujourd'hui et pour demain, c'est qu'il y a une aggravation des inégalités autour notamment de l'école. Aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, il est exponentiel. Et donc il y a une aggravation de ces inégalités qui fait que la situation non seulement ne s'améliore pas, mais en plus qui a tendance à s'aggraver. J'avais noté également, je ne voudrais pas esquiver la question du ghetto scolaire. Ce que nous proposons, c'est un travail avec les autorités locales, c'est-à-dire collectivités, conseil départemental, direction académique, en lien aussi avec les communes que nous souhaitons faire travailler sur dans chaque département. Alors on l'appelle comme ça aujourd'hui, mais bon, on verra quand même, sur un plan mixité et avec la responsabilité en concertation avec l'ensemble des acteurs de la communauté éducative. Alors excusez-moi, mais tout à l'heure dans les acteurs de l'éducation, j'ai pas parlé des parents, ma femme. Ouais, évidemment. Hein, de définir des mesures adaptées au territoire et donc modification de la carte scolaire, des secteurs multiscolaires. On a d'ailleurs des expériences qui fonctionnent plutôt pas mal sur ce qui se passe sur Toulouse, par exemple, est quand même intéressant à plus d'un titre. Et ça montre que ça peut fonctionner. Simplement, on se rend compte que sur ces territoires où ça fonctionne, il y a un objectif commun, partagé, et que, j'ai envie de dire, tout le monde fait son travail, entre guillemets. C'est-à-dire que on a vu que le département a mis les moyens, que l'éducation nationale aussi a mis un certain nombre de moyens, que les collectivités, que voilà. Donc, on a des exemples qui montrent que ça peut fonctionner. Et donc, c'est sur ces exemples qu'il faut, selon nous, s'appuyer pour développer ces projets.
J'aurais une question sur la carte de l'éducation prioritaire aussi. Dans le premier degré, on est confronté à des écoles qu'on appelle orphelines, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rattachés à un collège qui est classé REP ou REP+, et néanmoins, on a de nombreuses écoles qui demeurent dans des quartiers qui sont difficiles et du coup n'ont pas les moyens pour pouvoir avoir des moyens supplémentaires pour pouvoir aider les élèves et les enseignants dans l'apprentissage des élèves. J'aurais voulu savoir est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'il y a une solution que vous avez envisagée pour pouvoir, parce que pour l'instant, ce qui nous a été proposé, une des réponses du gouvernement actuel, ça a été l'éclat pour pouvoir prendre en compte ces écoles orphelines. Alors, on voit que ce n'est pas du tout la même chose parce qu'on n'a pas un budget qui est alloué pour, comme c'est le cas lorsqu'on est en éducation prioritaire, que c'est sous forme de projet, qu'on est choisi. Enfin, ce n'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur les critères sociaux et inégalitaires tels qu'on l'est dans l'éducation prioritaire. Donc, j'aurais aimé savoir un petit peu comment vous envisagiez cela.
J'ai envie de dire, simplement, c'est en les rattachant au collège et en les inscrivant dans le même dispositif, parce qu'on se rend compte que finalement, je vous réponds, j'en ai pas discuté avec Anne Hidalgo de cette question-là précisément, vous vous en doutez bien, mais c'est tout simplement ces écoles orphelines, si je puis dire, le terme d'ailleurs, mais en les incluant dans les dispositifs, comme le premier degré, ces écoles-là qui sont déjà dans le dispositif, de les rattacher. Parce que sinon, on voit bien les situations que ça crée, des dispositifs qui sont présentés comme étant un peu de compensation, mais qui finalement, je trouve, rajoutent de la difficulté à la difficulté, parce que c'est presque encore plus terrible finalement de créer une sous-catégorie, si je puis dire. Donc je pense comme ça que la solution, en tout cas la réponse, c'est de les inclure dans le dispositif pour qu'il n'y ait plus de...
Est-ce que ça ne va pas renforcer la ségrégation sociale? Ça veut dire que les écoles orphelines dans lesquelles il y a des enfants de familles pauvres, il faut les mettre tous ensemble avec les autres écoles où il y a des enfants de familles pauvres dans des collèges qui vont donc être spécialisés dans l'accueil de l'ensemble de ces écoles qui scolarisent les enfants pauvres.
Mais pourquoi des collèges spécialisés?
Eh bien, si vous mettez les écoles orphelines, vous les rattachez au réseau d'éducation prioritaire qui déjà accueille donc un certain nombre d'écoles et d'enfants de familles défavorisées. Vous mettez les écoles orphelines qui, elles, sont sectorisées sur, oh merveille, un collège mixte, pour une fois, où il y a une mixité sociale. C'est pour ça qu'elles sont orphelines. C'est parce qu'elles ne sont pas rattachées à un collège de l'éducation prioritaire. Donc vos écoles orphelines, qui pour l'instant ont, entre guillemets, la chance, je ne sais d'ailleurs pas si c'est la chance, de déboucher sur un collège où il y a une mixité sociale, vous allez les rapatrier sur des collèges où déjà il n'y a pas de mixité sociale. Donc vous risquez de renforcer les phénomènes de ségrégation sociale et scolaire.
Alors, moi je veux repréciser par rapport à ça, lors du précédent gouvernement pour les écoles orphelines, dans les départements, on a des écoles pour avoir des moyens sur un collège éducation prioritaire, mais les enfants néanmoins, allaient dans leur collège. Donc c'est pour ça que qu'on insiste un petit peu là-dessus.
Pour rabâcher les moyens, mais pas la politique.
Et du coup, voir un petit peu comment ça en est.
Mais, il ne faut pas non plus qu'on perde l'objectif premier, qui est justement cette question de la mixité que vous évoquiez. Moi, je pense que, et d'ailleurs, je pense que peut-être une des clés, notamment sur la question du privé et public, moi, je le dis souvent de manière, je le dis un peu pour provoquer, mais en même temps, la provocation, parfois, ça aide au débat et à la réflexion. Je pense que le jour où chaque, parce que moi j'ai jamais rencontré, en 26 ans, j'ai jamais rencontré de parents qui ne voulaient pas que leur enfant ne réussisse pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Bon. Je pense que le jour où chaque parent sera convaincu que dans l'école du quartier dans laquelle ils habitent, leur enfant, il trouvera dans cette école ce dont il a besoin pour réussir, je pense que la question, vous voyez, par exemple, de la carte scolaire, du détournement, etc., elle sera en grande partie résolue. Pas complètement, mais elle sera en grande partie résolue. Et donc, c'est le sujet, c'est aussi celui-là. C'est permettre de réunir les conditions, dont on parle depuis tout à l'heure, qui font que les gens ne cherchent plus à aller ailleurs. Parce que sinon, finalement, ne restent plus dans certaines écoles, que ceux qui ne peuvent pas partir.
Mais c'est déjà le cas, c'est le cas.
Mais est-ce, pardon, allez-y.
Donc moi je suis, ça fait 17 ans que je travaille en zone d'éducation prioritaire à Montagelé, dans le Val-Fouré. Et là depuis peu, j'étais en école élémentaire et depuis peu je suis directrice d'une école maternelle dans le Val-Fouré. D'ailleurs une école maternelle et enseignante de la classe passerelle. Vous connaissez le...
Oui, oui.
Qui existe, et la classe passerelle dans laquelle je travaille existe, a été la première classe passerelle créée dans le 78, et même il y en a très peu, je crois, en France. Et donc, la mixité sociale, quand j'ai commencé il y a 17 ans dans un quartier de Val-Fouré, elle était moindre, elle existait, mais elle était très minime. Et de petit à petit, elle a complètement disparu, et la seule mixité sociale que nous avons dans nos écoles maternelles et nos écoles élémentaires et au collège, c'est celle des enseignants. C'est les enseignants qui apportent, qui sont, si on parle. Voilà, il n'y a pas de. C'est vraiment du communautarisme sénégalais, de toute l'Afrique du Nord, et voilà, mais il n'y a pas. Et beaucoup de. Là, dans l'école maternelle où je suis, il y a beaucoup de familles sri-lankaises, pakistanaises, etc., d'Inde, mais il n'y a aucune mixité sociale au niveau des enfants. C'est, voilà. Et donc, ma première question est, comptez-vous créer d'autres classes passerelles, justement, parce que je suis d'accord avec vous, et donc, ça existe déjà depuis un certain temps, mais c'est vraiment ce qui amène l'enfant à sa future scolarité et à son futur d'adulte, en fait. Et puis, cette classe-là, elle intègre beaucoup les parents, et elle, c'est vraiment une aide apportée aussi aux parents, et une aide à la parentalité et à l'éducation des parents. Parce qu'on est confronté beaucoup à la barrière de la langue aussi. Et dans cette classe passerelle, les parents, c'est un petit peu intime, mais les parents, voilà, parlent, s'expriment, et on peut, avec les moyens qu'on a, on peut essayer de les aider. Mais donc, intégrer les parents par la langue aussi. Parce que c'est vraiment le problème auquel on fait face. Parce que vous disiez que, effectivement, les enfants, ils ont très peu de langage. Hein, les petits que j'ai, ils parlent peu par rapport à d'autres enfants. Et ma deuxième question, c'est, c'était ça. Comment envisagez-vous l'éducation à la parentalité? Et pensez-vous construire d'autres classes passerelles dans les zones prioritaires, sachant que vous savez que ça coûte très très cher, une classe passerelle? Et donc, voilà, mais on en a besoin. Et ça serait pour moi la clé
Et pour rejoindre aussi ce qui avait été dit dans les milieux ruraux, je pense peut-être que effectivement dans les milieux ruraux proches de Montagnes, il y a de plus en plus de mixité justement qu'il n'y avait pas avant. Peut-être qu'il faut permettre aussi aux milieux ruraux à côté, proches banlieues, d'aider aussi les enseignants qui font face à un nombre élevé. Évidemment, qui n'est pas, parce que moi, dans ma classe Pascal, il n'y a que 15 petits élèves. Dans les classes, comme vous dites, dédoublées, ils sont entre 15 et 16. Et l'éducation prioritaire, justement, c'est une chance parce qu'on a quand même peu d'élèves dans nos classes. Alors que dans les milieux ruraux, il y a un grand effectif d'élèves par classe. Et puis, du coup, c'est peut-être qu'il faudrait leur apporter aussi de l'aide.
Les classes passerelles, j'ai aussi connu professionnellement, moi c'était à Creil, ce dispositif qui était vraiment un excellent dispositif. Alors vous avez raison, c'est vrai que ça coûte, parce qu'il y a des personnes différentes, etc. Mais pour le coup, en tout cas, pour le coup, c'est loupé et puis c'est looté, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant et qui permet de faire une passerelle, et qui a l'avantage, vous en avez parlé à juste titre à mon avis, par rapport aux parents, notamment, de travailler avec eux. Et je trouve que ce sont des dispositifs qui sont extrêmement intéressants, complémentaires, y compris la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, complémentaires, mais j'en ai pas parlé tout à l'heure. Vous avez raison d'en parler, ce sont des dispositifs qui sont extrêmement intéressants et extrêmement importants. La parentalité, on pourrait y consacrer des réunions entières, je le disais tout à l'heure. Moi, je ne connais pas, j'ai jamais rencontré dans ma vie professionnelle de parents qui ne voulaient pas que leur enfant ne réussisse pas. Donc, je pense aujourd'hui, là, c'est vrai qu'on a il y a des clivages, contrairement à tous ceux qui aujourd'hui veulent nous faire croire que la gauche, la droite, tout ça c'est pareil, que tout est dans tout, et que voilà, nous considérons que nous avons des approches extrêmement différentes, notamment sur les questions d'éducation, même si c'est bien que l'école elle fasse l'objet d'un consensus, bien évidemment. Pour autant, quand je disais que le projet qu'on porte pour l'école, c'est un projet de société, on est différent et on porte des choses différentes. Et nous considérons que être parent aujourd'hui, c'est plus forcément la même chose qu'il y a quelques années. Et qu'il y a de très fortes inégalités aussi. Il y a de très fortes inégalités. Il faut bien évidemment toujours rappeler que les parents sont les premiers responsables, évidemment, de leur enfant et de l'éducation. Pour autant, moi j'ai souvenir, j'étais jeune directeur d'école à l'époque, je vous racontais une anecdote, et il y avait une très jeune maman, qui devait avoir peut-être 17 ans, qui venait chercher son fils tous les jours, qui était dans ma classe, et quand elle arrivait, l'enfant lui mettait des coups de pied, pleurait, elle ne savait pas comment réagir. Tout ça pour dire que la question de la parentalité, c'est à notre sens un sujet extrêmement important. Encore faut-il donner la possibilité aux parents à la fois d'être bien associés à la scolarisation de leur enfant. C'est pas toujours le cas non plus. Donc il y a un travail à faire à la fois de l'institution en tant que telle, mais ça concerne aussi les collectivités, ça concerne l'ensemble des travailleurs sociaux, ça concerne aussi les associations, l'éducation. Voilà, c'est quelque chose. Et il faut surtout qu'on soit... alors certains parlent... d'alliance éducative, de coéducation, d'éducation partagée, enfin, bon, on peut mettre tous les mots qu'on veut là-dessus, mais en tout cas, c'est une dimension fondamentale, parce que de toute façon, on ne fera rien et on n'arrivera à rien sans débat. Il y avait une autre question peut-être sur...
Il y a deux demandes d'intervention, Thomas et Frédéric.
Vas-y, je veux savoir, à votre avis, est-ce que l'éducation prioritaire doit aller au-delà de la scolarité obligatoire en termes de politique spécifique?
Est-ce que vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît?
Si vous voulez, actuellement, il y a des ambiguïtés. en la matière. On ne sait pas très bien si les lycées sont concernés par l'éducation prioritaire. Il y a vraiment une question secondaire, si l'enseignement professionnel, les lycées professionnels sont également concernés, ou s'ils relèvent d'autres politiques que la politique d'éducation prioritaire, qui me semble-t-il, en tout cas à l'origine, avait quand même été conçue essentiellement par sur une base territoriale, ce qui a été rappelé en plusieurs reprises dans la discussion, et deux, devait concerner la scolarité obligatoire.
Tout à fait. Et donc, d'ailleurs, je partage d'autant plus votre propos que je me souviens que Najat Vallaud-Belkacem, à quelques mois d'ailleurs, alors là aussi ça fait partie des choses qui n'ont pas été faites de 2012 à 2017, hein, dont acte, mais il était prévu en tout cas l'inclusion, si je puis dire, la rentrée du second degré, des lycées dans le dispositif d'éducation prioritaire était prévue. C'est quelque chose qui était prévu politiquement, qui n'a pas été fait.
Est-ce que c'est une bonne chose?
Je pense que si on veut être cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le continuum éducatif, je pense que si on veut être cohérent, on peut considérer que les lycées peuvent faire partie du dispositif, si on veut être cohérent jusqu'au bout.
Pourquoi s'arrêter en si bon chemin?
Oui. Il faut raison garder. Nous, on n'est pas sur cette position-là. On est sur la position de la scolarité obligatoire. Et ce qu'on avait proposé en son temps, notamment parce qu'on a eu une réunion de débat ici avec les collectifs lycéens qui s'étaient constitués sous votre mandature, on leur proposait qu'il y ait un travail de fait pour construire un référentiel collège-lycée, de façon à ce que construire des projets d'articulation entre l'enseignement obligatoire et lycée. Et ça peut être une entrée quand même un peu plus pertinente que automatiquement mettre des lycées. Quel lycée rentrerait dans un continuum avec l'éducation prioritaire. Donc, c'est Frédéric.
Je veux juste insister sur ce point-là,
parce que il y a de telles difficultés à obtenir une articulation effective entre l'école et le collège. Bon, je ne développe pas, par quelques mots qu'on aborde, c'est difficile. On a de telles difficultés, à propos de la mixité par exemple, à régler l'articulation entre un secteur de collège qui dépend de certains, les départements et les communes qui n'ont pas exactement les mêmes surfaces, etc. J'ai déjà l'impression. Par ailleurs, on a effectivement des objectifs en matière de scolarité obligatoire, à l'issue de laquelle on espère pouvoir orienter les élèves vers des établissements qui peuvent, dans un certain nombre de cas, sortir du territoire de l'éducation. C'est pour ça qu'on est un petit peu branché, si on concerne le sujet, sur scolarité obligatoire, et un territoire de la scolarité obligatoire qui, du point de vue scolaire, comprendra les écoles.
C'est juste.
C'est la difficulté avec les lycées professionnels. Je ne veux pas dire, pour en terminer, qu'il n'y a pas des mesures à prendre concernant la lycée,
et notamment un certain nombre de lycées professionnels.
Il y a des lycées professionnels à recrutement régional qui sont top chez top et qui sont très recherchés. Dans un certain nombre de communes. Par contre, il y a des lycées professionnels qui vivent des situations très proches de l'éducation prioritaire. Et ça, c'est un travail beaucoup plus fin qu'il faut faire, un travail qui serait sur des projets à construire avant de le penser de façon générale. Frédéric, je suis désolé, je leur donne la parole.
Moi, je suis directeur d'école et j'ai fait des j'ai relevé tout à l'heure dans les grands chapeaux que vous nous avez donnés, vous étiez sur les grands chapeaux, donc il y avait la restauration du pilotage, donc ça amènerait peut-être à quelques précisions, si vous entendez par là, sur la restauration du pilotage, ça n'a pas mal du tout. Et puis vous avez parlé d'attractivité en lien avec les collectivités, donc ça m'interroge un tout petit peu, à l'heure où certains voudraient bien certainement séparer l'éducation en différents éléments. Je voudrais avoir des précisions et savoir justement si vous avez déjà vu une programmation budgétaire.
Alors je réponds tout de suite sur l'attractivité. En fait, ce à quoi je pensais je vous remercie d'avoir posé la question, ça peut permettre d'éviter tout quiproquo. Ce que j'entends par attractivité, c'est par exemple les conditions de vie des enseignants dans certains territoires. Il y a par exemple des conventions qui sont passées avec un certain nombre de collectivités, je pense par exemple en Seine-Saint-Denis. Moi, je parle beaucoup de la Seine-Saint-Denis, mais enfin, c'est là où je vis, où je travaille. Il y a des conventions qui sont passées pour permettre aux jeunes enseignants qui arrivent, notamment de province, de pouvoir être logés, rapidement, deux, dans des conditions financières qui leur permettent de vivre, parce qu'on en est là, quand même, vous le savez bien. Vous connaissez le niveau de salaire d'un enseignant qui débute. Je rencontrais il n'y a pas longtemps un jeune collègue qui est arrivé de la Dordogne et qui ne peut pas retourner chez lui parce que quand il a fait une fois le trajet, ben il n'a plus de quoi vivre quand il a payé son loyer quasiment. On en est là quand même aujourd'hui. Donc tout ça pour dire que quand l'attractivité, c'était par rapport à des questions de cette nature-là, de conditions de vie. De conditions de vie des enseignants. D'ailleurs, ça me ramène à un point sur lequel je ne suis pas revenu. Quand on évoquait les questions de mixité, madame, quand vous évoquez les questions de mixité, il y a un sujet qu'on ne réglera pas, nous, ici, bien évidemment, qui dépasse la seule question de l'école, mais c'est la question du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question du logement, elle conditionne aussi qui habite où. Et l'école, malheureusement, n'y peut rien, si je puis dire, mais vous avez des collectivités et des maires qui, depuis un certain nombre d'années, ont organisé, on va dire, les populations dans leur quartier. Il y a des endroits aujourd'hui, et quand, par exemple, on aborde les questions de la loi SRU, qu'on regarde, je vous le dis tranquillement, je ne veux pas polémiquer, mais la région, il se trouve que moi je suis conseiller régional de l'Île-de-France, quand je regarde la liste des communes qui sont carencées en termes de construction de logements sociaux, bah, les communes, hein, c'est pas Gennevilliers, hein, c'est pas Saint-Denis, c'est pas Aubervilliers, c'est pas Mantes, hein, les communes carencées. Bon, c'est des communes, qui sont, on va dire, les choses qui sont des communes de droite, pour parler très clairement, et sans rentrer dans la polémique. Mais donc, l'école, elle prend ça aussi, quelque part, puisque finalement, elle est un peu le miroir du quartier dans lequel elle évolue, dans lequel elle fonctionne. Donc, ces questions-là ne sont pas des questions de nous. La question des péréquations et des moyens dont disposent les collectivités sont aussi déterminantes. Sur tout un tas, parce que lorsque vous avez une concentration, vous le savez bien, lorsque vous avez une concentration de population en difficulté, c'est tout derrière. C'est-à-dire que c'est bien évidemment les équipements publics, c'est aussi parce que ces gens-là, ils ont le droit à la santé, ils ont le droit à la culture, ils ont le droit au sport. Bref, il y a tout cela aussi derrière qui fait que c'est une question, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais qui impacte aussi, évidemment, très fortement, ce qui se passe après au niveau des écoles.
Marc, une réaction.
Je suis assez d'accord avec ça, mais est-ce que la solution, ce n'est pas de durcir un peu la loi SRU pour aller un peu plus loin dans cette perspective? C'est-à-dire, est-ce que la vraie mixité sociale à l'école va s'obtenir par un travail sur l'école? Moi, je n'y ai jamais cru. J'ai participé, j'ai travaillé dans le cadre d'un gouvernement qui y croyait, mais moi je n'ai jamais cru à titre personnel. Et par ailleurs, est-ce qu'il ne faut pas revenir sur cette loi SRU, la travailler pour être plus ferme, plus exigeant, pour aller plus loin, y compris dans le fait d'exiger que les collectivités territoriales rachètent du bâti déjà existant pour en faire du logement social, ce qui serait un pas de plus, qui je crois n'est pas fait dans la loi SRU jusqu'à présent, qui permettrait effectivement à des communes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup non plus d'emprises disponibles, parce qu'on parle parfois de communes dans lesquelles il n'y a pas beaucoup de places pour construire. Si je prends par exemple la commune de Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, c'est vrai que le maire de Saint-Mandé, il n'a pas de possibilité de construire. En revanche, il a la possibilité, si on lui donne la loi qui lui permet de le faire, et si on l'oblige un peu à le faire, il faudra l'obliger peut-être un petit peu, il préfère payer.
Voilà.
Oui, pour l'instant, il préfère payer. Pour que
l'on puisse y payer.
Voilà. Peut-être avancer.
Alors, il y avait la question, il y avait encore une question sur le pilotage, là, et puis après, je vous donne la
parole. Est-ce que, on a deux, trois questions sur le chat,
oui, oui. Après. Alors, pilotage, la question de la collègue, et après, les questions. Merci. Allez.
Ah, pardon, j'attendais la question de la collègue, j'étais resté. Oui, oui,
Restaurer le pilotage.
Oui, ben, c'est-à-dire que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on le voit bien, donc il y a un travail à la fois interne, j'ai envie de dire là, on est plus dans un travail systémique à faire au niveau de l'éducation nationale et notamment de la chaîne hiérarchique de l'éducation nationale d'un point de vue de son pilotage, donc j'évoquais la question des recteurs, la question des inspecteurs, etc., sur la manière dont on conduit les choses, dont on organise les choses, mais ça veut dire aussi il faut, je ne le déconnecte pas complètement non plus, de la question du temps aussi, de travail en commun. On ne peut pas simplement dire il faut davantage de pilotage. Ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur les possibilités de travail en commun, donc c'est la question du temps aussi. De concertation. On évoquait le premier degré, la liaison école élémentaire, premier degré collège. Moi, je l'ai vécu aussi, c'est quand même très compliqué parce que les agendas ne sont pas les mêmes, parce que les fonctionnements ne sont pas les mêmes, que tout le monde est très pris par la vie de son propre établissement et que donc, voilà, c'est extrêmement compliqué. Si je prends l'exemple sur le pilotage, je ne suis pas très rassuré. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, sur la question du pilotage, des cités éducatives. Je ne suis pas très rassuré, parce que la Troïka, là encore, dans certains endroits, malheureusement, elle repose souvent un peu sur les personnalités. Hein. C'est déjà pas simple d'avoir éducation nationale, collectivité, et puis une personne qui gère cette gestion, ce pilotage à trois, c'est déjà pas simple. Donc ça tient beaucoup aux personnes, ça tient beaucoup aux personnalités en fait. Et là on est sur de l'humain. Donc c'est un vrai sujet. Et indépendamment des responsabilités qu'on attribue, des feuilles de route ou des feuilles de mission, on peut les appeler comme on veut, derrière ça, il y a quand même une difficulté et donc un travail à mener pour arriver à fédérer, à réunir tout le monde, à faire aussi travailler tout le monde. Se pose aussi la question des évaluations. La question de l'évaluation aussi, c'est dispositif. Et donc, moi, j'ai vu des endroits où, finalement, il n'y avait quasiment plus de rencontres, où quasiment il ne se passait plus rien. Parce qu'on sait bien, c'est comme dans un établissement, la question du pilotage, ça tient, malheureusement, c'est comme ça, ou heureusement, je ne sais pas, mais ça tient aussi beaucoup aux personnes. En tant que tel, indépendamment des difficultés matérielles, d'organisation, etc.
Il y a quand même une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle des temps de pondération, des jours de pondération, où justement les enseignants de maternelle ont tous des remplaçants qui veulent bien venir, parce que on est en éducation planétaire, mais voilà, elles peuvent communiquer avec et échanger avec les enseignants d'école primaire, et les enseignants d'école primaire échangent avec les professeurs du collège du réseau. Et ça, c'est une fois, ça se produisait, ça fait à peu près une petite dizaine d'années que ça se fait, et on faisait ça une fois, on fait ça une fois par mois. Là, ça a été arrêté avec la COVID-19, et c'est très très bien, parce que justement, on met en place des projets de cycle, on échange avec les collègues, on voit ce que les professeurs attendent au collège, et ça, il y a des choses très très bien qui sont faites en éducation.
Voilà, c'est une question qui est liée à l'attractivité, c'est-à-dire, c'est pas uniquement le logement pour les collectivités, c'est la conception du métier, notamment en éducation prioritaire, et considérer que le métier se définit pas uniquement par le face-à-face avec les élèves, mais que tout le travail de liaison, de concertation, d'élaboration de dispositifs doit faire partie du métier, et que il faut l'imposer, c'est-à-dire que la pondération, elle n'a pas marché partout, hein, et que là, il y a une responsabilité du pilotage, je pense notamment au second degré, où ça a été conçu souvent comme une création, hein, et donc il faut revoir ça. Alors, la collègue, là, vous aviez une...
Juste, je voulais faire une remarque sur la question du pilotage. ce qui se dessine, là, on voit bien, c'est qu'on est sur quelque chose, sur un pilotage uniquement sur les résultats, qui introduit qui introduit dans un excès qui pourrait introduire dans une forme de dérive une compétition entre les établissements sur lesquels, à notre sens, il faut quand même qu'on fasse particulièrement attention. Et dans le projet d'éclat, le fait que ça soit sur des projets qui seraient notamment décidés par les recteurs, là on voit bien qu'il peut y avoir des interventions en fonction de l'endroit où vous êtes, en fonction aussi de la capacité des élus à intervenir ou pas sur le dispositif, qui on est sur une logique qui est, selon nous, tout de même assez problématique. Excusez-moi.
Alors, donc, Anne-Sophie Legrand, secrétaire nationale du SNES-FSU. Donc, je vais rebondir sur plusieurs points qui ont été abordés, notamment la question des lycées à réintégrer dans la carte d'éducation prioritaire. Donc, à la FSU, nous sommes pour, parce qu'en effet, il y a une cohérence éducative tout au long du cursus de l'élève, et notamment, pas seulement au SNES pour les lycées généraux et technologiques, hein, mais aussi au SNES pour les lycées professionnels. Pour rebondir sur la question des pondérations, on est pour l'élargissement de la pondération aussi au REP, puisque là, actuellement, ça existe uniquement en REP+. Et je ne pense pas que ça ne va pas fonctionner dans le second degré. Dans le second degré, les professeurs ont plusieurs classes. Et donc, il y a aussi toute une concertation informelle qui a lieu tout au cours des journées entre les collègues. Sans compter les réunions internes au collège. Donc, évidemment, il faut essayer de trouver des moments pour discuter d'un degré à l'autre. Et enfin, sur les expérimentations de mixité sociale, hein, on les a suivies au plus près. On est évidemment favorable. Alors, ce que vous aviez dit, c'est que ça a été accompagné de moyens. On n'est quand même pas tout à fait. D'accord, alors, c'est, après c'est le gouvernement bancaire aussi qui a laissé en jachère ces expérimentations, donc il y a eu les collectivités locales qui étaient plus impliquées, mais c'est vrai que les collèges, par le collège de Toulouse qui a accueilli le plus d'élèves d'éducation prioritaire, a reçu finalement très peu de moyens pour les accompagner. Donc les collègues sur le terrain, ce qu'ils disent, c'est que oui, quand on voit les chiffres, une mixité sociale, c'est installé, mais les résultats des élèves ne sont pas encore encore permis aux élèves de progresser suffisamment au collège, du fait du nombre d'élèves par classe dans ces établissements, de la même façon à Paris.
Oui.
Ou en fait, sur un des deux réseaux, en fait, un des établissements était classé éducation prioritaire. Donc, comme ils ont vraiment mixé les deux populations d'élèves, moitié-moitié, il y a donc un établissement qui est encore considéré comme étant l'éducation prioritaire et qui bénéficie donc de l'indemnité et puis de quelques moyens, alors que l'autre, qui au départ était plus favorisé, qui doit accueillir une nouvelle population, n'a pas reçu les moyens de l'éducation prioritaire. Donc, il faut faire attention de ces expérimentations, à bien accompagner l'expérimentation des moyens suffisants.
J'ai envie de dire, vous m'excuserez, de l'emprunt. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Vous avez raison, parce que en fait, vous soulignez les difficultés. Il est évident, parce que quelque part, c'est quand même ce genre d'expérimentation, c'est évidemment un changement important. Ça l'est politiquement, évidemment. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, que veut-on? Et je veux pas aller plus loin, y compris par rapport à ma propre famille politique, par rapport à cette question-là. Mais à un moment donné, quand on affirme un certain nombre de principes et de valeurs, il faut aller au bout de cela. Et donc, alors évidemment, pas partout, tout le temps, tout de suite, mais on évoquait un certain nombre d'expérimentations qui sont intéressantes, qui permettent ensuite d'ajuster, de réguler, de modifier. Mais ce qui est important, c'est de fixer le cap et surtout de se dire, voilà, on sait ce qu'on ne veut pas. Et on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça parce que sinon, on va avoir des jeunes, des enfants, des élèves dans les établissements scolaires qui vont vivre les uns à côté des autres et finalement, c'est un type de société en tuyau d'orgue avec des partitions et avec ceux qui réussissent, et ben, ils avancent et les autres, ils n'avancent pas, ils restent au bord du chemin et ils tombent dans le fossé. Donc c'est ça, et cette question des inégalités pour nous, et vraiment, s'il y a une chose, le message vraiment, enfin, qui est le nôtre sur cette question de l'éducation, et notamment l'éducation prioritaire, c'est cette question des inégalités qui, aujourd'hui, non seulement n'est pas réglée, mais qui fracture davantage notre société.
Alors, deux, trois questions, notamment sur cette question de la carte de l'éducation prioritaire. On a une question qui une personne qui ne peut-il pas déconnecter la carte de l'éducation prioritaire, la disponibilité de soutien aux quartiers les plus munis, de celle des secteurs de collège, qui concerne tous les quartiers avec un objectif de mixité sociale. Ça, c'est une question. Ça serait une question.
Continue.
D'autres questions qui sont sur les attractivités. Pensez-vous que l'école peut favoriser la mixité sociale en y apportant des dispositifs attractifs? Alors, j'ai des réflexions qui viennent dessus. Attention, on ne peut pas mettre en place tout un tas de dispositifs d'excellence dans une école de quartier défavorisée. N'empêche pas une école de ne pas avoir son image changée. Donc voilà, il y a des questions par rapport à ça. Et vous avez répondu sur la question notamment importante qui a été posée sur la question de ces collectifs. Et sur quel temps pourront prendre corps les équipes interdégrées, quelles modalités d'organisation précises. Voilà un petit peu sur ces trois questions qui nous sont posées sur le chat.
Anne-Sophie, vous aviez encore une question?
Oui, sur la réponse scolaire, est-ce qu'elle a été à son client en 2007, et c'est ça qui a aussi augmenté le phénomène de ghettoisation? Est-ce que vous sentez les durcir aussi?
Voilà le paquet. Et le temps tourne, donc faites très concis.
Sur la question de la carte scolaire, ça mériterait à elle seule, un temps de travail, de réflexion et de partage. Ce que nous disons, c'est que, c'est d'ailleurs une des propositions dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que la situation aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'elle soit satisfaisante. Donc, il faut retravailler cette question-là, mais pas l'éducation nationale seule. Il faut travailler évidemment avec les collectivités. Donc ça, c'est une chose. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est aussi ce qu'il y a autour de l'école. Parce que vous aurez beau modifier autant que vous voulez les cartes scolaires, mais si vous êtes sur des endroits, des zones entières où... vous avez d'un point de vue socio-économique et d'un point de vue social uniquement des familles en grande voire en très grande difficulté, vous pourrez faire tout ce que vous voulez au niveau de la carte scolaire. De toute façon, ça ne changera rien. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Marc Bablé, c'est-à-dire que l'école, elle est là, mais ce qu'il y a autour, si on n'y touche pas, si on ne fait rien, la vie va continuer, et dès que des gens pourront partir, ils partiront. C'est un sujet qu'il faut traiter, mais à mon avis, traiter avec d'autres sujets en même temps. Et là, il y a aussi, je le disais tout à l'heure, un sujet qui est la question des inégalités. On parle des inégalités à l'école, mais des inégalités aussi en dehors, et entre les collectivités. Enfin, vous avez des collectivités aujourd'hui qui peuvent, sur leur propre budget, construire chaque année, je ne vais pas la citer, mais une école maternelle de 8 classes chaque année sans emprunter un seul euro. C'est-à-dire que sur son budget, elle peut créer en investissement chaque année une école. Il n'y a pas de problème. De par les recettes, et puis vous avez des communes qui n'y arrivent pas. Vous avez des communes, donc là, on a aussi des problématiques qui impactent forcément après sur la vie, sur les établissements scolaires, sur la vie dans les écoles, forcément que ça impacte. pas non plus. Il faut aussi qu'on veille à ne pas, entre guillemets, pardon mon expression, charger l'école, finalement, de tous les mots MAUX, de tous les mots de tous les mots de la Terre non plus. Hein. Je veux dire, mais bon, vous le savez, hein, c'est pas...
D'autres demandes, questions?
J'ai une dernière question. Alors, des questions sur une question du café pédagogique.
Ah.
Sur la question des moyens. Alors, voilà. Alors, l'équipe dont vous êtes partie a pensé au salaire des enseignants. Cependant, il faut reconnaître une revalorisation importante des primes en éducation prioritaire par le gouvernement actuel. Allez-vous rester sur cette dynamique? Et une deuxième question de M. Poudé. Vous avez évoqué la question des salaires. Pouvez-vous vous demander?
Alors, sur la question des salaires, c'est encore une fois, c'est un débat à lui tout seul. Hein. On reconnaîtra, en tout cas... moi, j'ai été franchement que la question des salaires enseignants soit posée à l'entrée de cette campagne présidentielle. C'était d'ailleurs, ça a été repris. En fait, c'était dans l'ouvrage d'Anne Hidalgo, hein, et, quelqu'un qui à un moment donné qui a sorti la phrase qu'il y avait dedans. Et voilà. Mais personne n'est venu nous dire que la question de la revalorisation salariale ne se posait pas. Personne. C'est-à-dire que il y a quand même, on a quand même un sujet. Avec ça, je ne vais pas reprendre toutes les comparaisons au CDE, etc. Vous les connaissez par cœur comme moi. Donc aujourd'hui, c'est d'ailleurs pas. Il s'agit simplement d'une question de rattrapage, mais au-delà de reconnaissance aussi de la société, du corps enseignant. C'est aussi ça quand même, parce qu'on sait bien que la légitimité, la reconnaissance aussi, elle est liée. À cette question-là. Et donc, il y a des propositions que nous avons faites, qui ont été affinées ensuite sur les débuts de carrière, sur le temps qu'il faudrait. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, tout cela ne pourra se faire qu'en discussion avec les organisations représentatives des personnels de l'éducation nationale. Mais politiquement, de dire on a un sujet sur la revalorisation, on n'y échappera pas, dans une campagne et dans ce que l'on veut faire, c'est important. Alors après, on va nous dire, ah ouais, mais les budgets, etc. Écoutez, au niveau des budgets, on fait des choix politiques qui ont été d'ailleurs explicités depuis sur la question de la revalorisation, mais nul ne peut nier aujourd'hui qu'on a un sujet par rapport à cela. C'est pas le seul. Mais il fait partie en termes d'attractivité du métier. On a évoqué les questions de formation, on a évoqué les conditions aussi de travail. On aurait pu parler aussi, alors on a parlé de la formation initiale, de la formation continue. On aurait pu aussi aborder d'autres sujets sur les effectifs des classes, enfin bon bref, tout un tas de sujets. Mais ça fait partie aujourd'hui des sujets importants. Et d'ailleurs, je crois que il n'y a pas une candidate ou un candidat aujourd'hui qui... ne disent pas qu'il faut revaloriser les enseignants. Et encore une fois, hein, c'est juste la reconnaissance, c'est pas une faveur, c'est juste remettre à l'endroit, si je puis dire, une situation qui est problématique depuis un certain nombre d'années. Voilà.
Sur la question des primes en éducation prioritaire du gouvernement actuel, quelle est votre position?
Sur la question des
primes en éducation prioritaire donnée par ce gouvernement actuel, quelle est votre position?
Ouais, je ne vais pas vous dire qu'une prime, c'est pas bien, parce que c'est effectivement financièrement. Mais ça ne remplace. On sait très bien que les primes, de toute façon, ne sont pas calculées plus tard, et notamment au moment de la retraite. Donc on sait très bien que ça ne joue absolument pas dessus, ce qui est regrettable. Et donc la question de fond, c'est la question d'une revalorisation. C'est celle-là. Parce que les primes, vous pouvez en donner, mais du coup, ça n'impacte pas sur la période post-professionnelle.
La dernière part de la prime était variable. Et nous, on s'est aperçu pour l'instant sur le premier degré de la dans les histoires d'Indos, que tout le monde a eu la partie la plus basse, soit 234 euros pour l'année.
On va clore ce soir. Je tiens à remercier Yannick Trigance et vous remercierez Anne Hidalgo de vous être déplacé. Je tiens à souligner que malheureusement, Fabien Roussel, Valérie Pécresse, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ne se sont pas donné la peine de venir débattre avec l'OZP, mais c'est des débats citoyens qui doivent nourrir tout à fait la démocratie. Merci à vous.
Merci à vous.
On aura certainement d'autres moments de rencontre à l'OZP, notamment on prévoit une rencontre en juin sur les cités éducatives.
Quand ?
Ah
ben. Pour la date ?
Oui. On vous attendait. Voilà.
Merci à vous en tout cas pour
bon retour,
pour l'échange et bonne continuation. Et merci pour le travail que vous faites ici.
Merci.
J'ai vu. J'ai vu. Je vais raconter.